Dites-moi si vous reconnaissez cette voix ou pas.
Je vais redessiner la carte du monde. Quand j'aurai fini, la Terre entière connaîtra mon nom. Loin des clichés,
Radio Campus
va vous surprendre.
Et les chiffres le prouvent.
Radio Campus 88.3 FM.
Le moulin à parole. Restitution de l'atelier radiophonique et paroles partagées.
Le moulin à parole.
La radio des écoles. Atelier d'initiation d'expression radiophonique dans les établissements scolaires d'Orléans. Sur Radio Campus 88.3, la radio des écoles.
Bien le bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, l'émission sera présentée par la classe de 1er STMG1 du lycée Benjamin Franklin. Ils vont nous parler tout d'abord des différents types de violences, en passant par les médias et les inégalités dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons comme invité M. Félix Fanchon qui va nous parler du port d'armes aux États-Unis.
Bonjour, oui, c'est exactement ça. C'est un sujet très intéressant à traiter car il est d'une importance majeure dans la société américaine.
Oui, commençons par les affaires de justice avec le joueur de NBA Ja Morant en rapport avec le sujet du port d'armes. Pourriez-vous nous présenter la star aux auditeurs, s'il vous plaît ?
Bien sûr, très bien. Pour commencer, Ja Morant est une superstar dans le milieu du basket américain au sein de la NBA. Il est âgé de 24 ans, il est né dans l'état de la Caroline du Sud, un état aux États-Unis où le taux de criminalité reste très très élevé. C'est le joueur star de la franchise des Memphis Grizzlies. Maintenant, passons à la polémique le concernant. Il est accusé de s'être montré avec une arme à feu sur les réseaux sociaux, notamment sur un live Instagram, dans un club de striptease. Cette affaire s'ajoute à d'autres comportements extrasportifs que le joueur a pu avoir en rapport avec les armes à feu ou avec des comportements très litigieux.
Et est-ce que Ja Morant a subi des sanctions suite à ces actes ?
Alors oui, effectivement, le joueur a subi certaines sanctions telles qu'une suspension de plusieurs matchs que son équipe lui a infligé et il a été envoyé pendant son expulsion en Floride pour intégrer un programme de soutien psychologique.
Très bien, donc cette affaire nous montre que le port d'armes autorisé dans certains états des États-Unis est excessivement nocif pour la population car on remarque notamment que le taux de criminalité ne diminue pas depuis des années et provoque généralement de nombreuses fusillades ou de drive-by.
Oui, complètement. Cela se remarque avec des chiffres. L'année 2023 compte environ 650 fusillades à l'année. Cela nous montre que le port d'armes devient de plus en plus incontrôlable et nocif et nuit à la société. Alors qu'à la base, il faut rappeler que l'autorisation d'une arme à feu avait pour but de se défendre en cas de danger potentiel.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a une solution possible pour pouvoir essayer de diminuer la violence causée par les armes à feu ?
Alors le gouvernement américain essaie de prendre position dans des meetings ou encore différents événements afin de calmer ce phénomène, notamment à Memphis où le président des États-Unis Joe Biden s'est rendu pour un appel au calme. Mais personnellement je pense qu'il faudrait soit restreindre cette loi de port d'armes, notamment dans les états où le taux de criminalité est très très élevé, ou alors restreindre les droits policiers aux États-Unis.
Très bien, merci à vous. Le sujet était très intéressant en espérant que nos auditeurs ont apprécié l'émission d'aujourd'hui. Et maintenant, nous allons passer à Maïs et Augustine qui vont nous parler du prochain sujet.
Merci à tous d'avoir écouté nos chroniqueurs. Nous allons maintenant changer de sujet, mais qui reste tout de même dans le thème des violences, celui des violences faites aux enfants dans les crèches.
Bonjour, en effet aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui touche de plus en plus d'enfants, mais également leurs parents en subissant de la maltraitance.
Que pouvez-vous nous dire à propos de ces violences ?
Ces violences peuvent être sous différentes façons. Nous avons les violences dites douces, ce sont celles qui sont usuelles et acceptées par la direction, mais aussi les violences physiques qui sont souvent associées à la violence douce. Il y a une minorité également de violences psychologiques, sans oublier les fautes de moyens qui sont comptabilisées comme de la maltraitance.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur toutes ces violences ?
Oui, bien sûr. Alors nous allons d'abord parler des violences douces et physiques, autrement dit de la violence institutionnelle. Malheureusement, il y a de plus d'enfants victimes de la maltraitance physique dans certains établissements. Cela peut inclure des pleurs durant des heures, des enfants renfermés dans les dortoirs pour les punir. Nous avons également le témoignage d'une ancienne éducatrice qui nous dit « Nous avons que 20 à 30 minutes pour donner le repas chaque midi. Si les enfants n'avaient pas terminé leur repas, j'étais dans l'obligation de leur retirer leur assiette. » Tous ces actes peuvent avoir de lourdes conséquences sur le bien-être physique et émotionnel des enfants, compromettant ainsi leur développement sain.
Ces maltraitances font en effet de plus en plus parler d'elles dans les médias. Mais vous nous avez expliqué que ce ne sont pas les seules formes de violence. Que pouvez-vous nous dire sur les violences qui sont psychologiques ?
Les violences psychologiques ont des conséquences sur de la longue durée, contrairement aux violences physiques. Le personnel fait parfois usage de ces violences sans même s'en rendre compte, en faisant du chantage, en humiliant l'enfant, en lui disant des paroles telles que « tu n'arriveras jamais à rien », ou encore en le dénigrant physiquement, avec des remarques sur son poids par exemple. Et il y a aussi les négligences faites envers l'enfant, en l'ignorant lorsqu'il pleure ou en ne respectant pas son rythme. L'enfant peut également subir un rejet de la part du personnel, c'est-à-dire qu'il ne recevra pas le même traitement qu'un autre. Cela pourra provoquer une peur de l'abandon dans le futur.
Je suppose donc qu'il y a tout de même eu des répercussions sur les membres de l'équipe pédagogique, non ?
Oui, tout à fait. Les employés ont eu de nombreux impacts psychologiques, rongés par la culpabilité d'avoir négligé le bien-être de l'enfant et les mettre inconsciemment en danger. Certains employés ont été jusqu'au burn-out à cause du manque de personnel. D'autres ont été dans l'obligation de quitter leur travail pour cause de traumatisme et par peur de faire mal aux enfants.
Je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir informés sur toutes ces scènes choquantes qui se déroulent sans que jamais rien ne change.
Ce plaisir est partagé. Je suis contente d'avoir pu faire passer un message de prévention et de vous protéger, vous, en tant que parents, mais aussi vos enfants qui méritent uniquement de se développer dans un endroit sain pour leur permettre de grandir sans aucun traumatisme. Je vous souhaite à tous une bonne journée.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Merci à Maëlys et Augustine. Bonjour, je m'appelle Mahdi, j'ai 16 ans et maintenant nous allons aborder un sujet tout aussi difficile, mais tout aussi crucial. Nous venons d'écouter la prévention de la violence domestique et maintenant nous allons continuer avec la sensibilisation à la pédophilie. Pour parler de ce sujet, nous allons écouter Adem. Bonjour Adem.
Bonjour.
Alors, présentez-vous.
Bonjour, je m'appelle Adem, j'ai 17 ans et je vais vous parler d'un sujet qui a été surnommé l'île d'Epstein.
Mais qu'est-ce qu'est l'île d'Epstein ?
Avant de plonger dans les sombres méandres de l'affaire de l'île de pédophilie d'Epstein, rappelons l'importance de rester vigilant et engagé dans la protection des enfants contre toute forme d'exploitation. Ce sujet risque de heurter la sensibilité des auditeurs. Nous vous recommandons la prudence pour les oreilles sensibles.
Jeffrey Epstein a-t-il été condamné ?
L'affaire de l'île pédophile d'Epstein a défrayé la chronique mondiale en 2019, mettant en lumière un réseau présumé de trafic sexuel impliquant le financier milliardaire Jeffrey Epstein. Située dans les Caraïbes, cette île privée était le lieu de rencontre pour de puissants hommes d'affaires, des politiciens et des célébrités, où des abus sexuels sur des jeunes filles mineures sont allégués.
Jeffrey Epstein a-t-il été condamné ?
Oui. Il a été condamné pour des accusations de trafic sexuel de mineurs. En juillet 2019, il a arrêté et inculpé pour des actes de prostitution impliquant des mineurs. Cependant, avant son procès, Epstein s'est suicidé dans sa cellule en août 2019.
Y a-t-il eu des poursuites judiciaires ?
Les accusations portées contre Epstein ont déclenché des enquêtes approfondies sur ses liens avec des personnalités influentes, suscitant des questions sur l'influence de la richesse et du pouvoir dans le système judiciaire. L'affaire a également soulevé des préoccupations sur la manière dont les victimes de trafic sexuel sont traitées par le système judiciaire et a mis en lumière l'importance de soutenir les survivants de traite des êtres humains.
Merci. Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Oui. Il est essentiel de reconnaître que la pédophilie est une réalité troublante et profondément perturbante. En abordant ce sujet, il est primordial de prendre soin de soi et de se rappeler que l'aide est disponible. Appelez le 08 06 23 10 63 pour ceux qui en ont besoin. Si vous vous trouvez confronté à des pensées ou des comportements inquiétants, il est crucial de chercher de l'aide professionnelle dès que possible pour protéger les enfants et obtenir un soutien approprié.
Merci de nous avoir éclairci sur ce sujet.
Merci à vous de m'avoir reçu.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mahdi. Nous allons changer de sujet et merci à Adem. Je vais parler d'un sujet qui a fait polémique en France, qui est l'interdiction de l'abaya dans les écoles.
Je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi l'ancien ministre de l'Éducation a interdit l'abaya ?
En 2004, il y a eu une loi votée qui a interdit dans les écoles, les collèges et les lycées publics le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une apparence religieuse. Mais sauf que l'abaya n'est pas une tenue religieuse, c'est un effet de mode. Pour être précis, c'est un vêtement long qui cache les formes du corps.
Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'abaya et quelle est son importance dans certaines cultures ?
Oui, tout d'abord, porter un vêtement religieux dans un établissement scolaire est interdit comme la kippa. Ou on peut le porter, mais il faut qu'il ne soit pas ostentatoire. De plus, il n'y a aucune règle qui interdit ni réglemente le port des vêtements traditionnels ou non occidentaux dans le cadre scolaire. La loi ne conteste pas le droit des élèves à porter des symboles religieux de manière discrète. Elle ne proscrit pas les accessoires et les vêtements couramment portés par les élèves sans connotation religieuse. Cependant, la loi stipule qu'un élève ne peut pas invoquer une dimension religieuse pour justifier son refus de conformer aux règles vestimentaires de l'établissement. Mais sauf que l'abaya n'est pas un vêtement religieux. C'est un habit traditionnel des Bédouins. L'abaya se teint de religieux après que la police saoudienne l'impose de couleur noire. Pour les femmes, à partir des années 2000, elle est revisitée comme un accessoire de mode, mais il y a d'autres tuniques qui sont dans l'islam, comme le hijab, le niqab et d'autres, que l'abaya n'est pas dans le Coran. On parle plutôt de modestie vestimentaire, mais ne spécifie pas de manière explicite.
Quels sont les principaux arguments contre le port de l'abaya à l'école, notamment du point de vue de sécurité et de l'environnement éducatif?
Le port de l'abaya est controversé en raison des risques de sécurité qu'il présente, comme les risques de trébuchement, ainsi que son potentiel à limiter la participation aux activités sportives et à interférer avec la communication en classe. Les écoles cherchent souvent à promouvoir une apparence uniforme et à éviter toute discrimination de genre, ce qui peut conduire à l'interdiction du port de l'abaya pour garantir un environnement éducatif sûr et inclusif.
Quels sont les défis pratiques auxquels sont confrontées les écoles dans la gestion des politiques vestimentaires et des questions de diversité culturelle et religieuse?
Les écoles sont confrontées à des défis pratiques dans la gestion de politiques vestimentaires et de diversité culturelle et religieuse. Cela comprend pour les établissements des règles équilibrées tout en garantissant de la sécurité et l'inclusivité, ainsi que l'application cohérente de ces règles, la gestion logistique et la sensibilisation à la diversité culturelle et religieuse.
Pour finir, quelles sont les priorités les plus importantes pour les écoles lorsqu'il s'agit de décider des politiques vestimentaires et de la manière de respecter la diversité culturelle tout en assurant un environnement éducatif sûr et inclusif?
Les écoles doivent trouver un équilibre entre la sécurité, l'inclusivité et le respect de la diversité culturelle de leur politique vestimentaire. Elles doivent assurer la sécurité tout en respectant les différentes traditions vestimentaires et culturelles des élèves. L'objectif ultime est de créer un environnement où tous les élèves se sentent acceptés et valorisés pour réussir dans leurs études.
Merci de nous avoir écoutés et vous aussi Mahadji, merci pour votre chronique. Nous allons encore changer de sujet qui va porter sur les médias.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur la Radio Campus. Merci à Adem d'avoir présenté ce sujet, ce qui est fort intéressant. Nous allons maintenant vous parler de l'émission TPMP diffusée sur C8, connue de tous aujourd'hui. J'ai donc préparé quelques questions à ce sujet. Tout d'abord, qui dirige les médias français. Ensuite, pourquoi TPMP est une émission problématique et conclure, comment boycotter TPMP?
Alors, bonjour, je m'appelle Kirill et aujourd'hui je vais vous parler du problème de l'émission TPMP. Donc il faut tout d'abord savoir que les principaux médias français privés sont dirigés par 29 personnes et 6 groupes de personnes morales.
D'accord. Et donc ces personnes qui dirigent les médias français ont-ils des règles au niveau de la diffusion des médias?
Bien sûr, même si elles sont entre guillemets indépendantes de l'État, les personnes dirigeant les médias français ont des restrictions appliquées par l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Et vous avez également commencé à dire que TPMP est problématique. L'ARCOM ne régule-t-elle pas cette émission?
Alors bien sûr que si, l'ARCOM régule TPMP comme toutes les autres émissions, mais elle l'a même sanctionné plusieurs fois. Mais TPMP produit tellement d'argent. Je rappelle quand même que l'émission a produit 58 millions d'euros entre 2016 et 2017, que de simples sanctions de 500 000 euros ne mettront pas l'émission en crise au point de la faire arrêter de produire ou de lui faire revoir son contenu par exemple.
Ok, je comprends mieux maintenant. Et cette émission, en quoi pose-t-elle problème finalement?
Alors, Touche pas à mon poste pose problème, puisque celle-ci propose du contenu intellectuellement dégradant et parfois choquant, comme la fois où Cyril Hanouna insulte avec désinvolture le député Louis Boyard.
Mais donc cette émission est mauvaise, pourquoi la regarder? Personne ne la regarde sinon.
Alors, il faut savoir que TMPMP est l'émission la plus visionnée de la chaîne C8, puisqu'en 2023, c'est environ 1,5 million de téléspectateurs en moyenne qui regardaient TPMP. L'émission dirigée par Cyril Hanouna est très souvent au cœur de plusieurs polémiques, comme par exemple l'été dernier, où TPMP fut sanctionné par l'ARCOM de 500 000 euros pour avoir partagé des idées conspirationnistes sur l'adrénochrome.
Alors, que faut-il faire pour que cette émission arrête d'être regardée et diffusée?
Aujourd'hui, je parle de cette émission car je trouve que les médias n'en parlent pas. Et donc, j'invite donc tout le monde à boycotter cette émission et donc de ne pas la regarder, mais également, par exemple, de la déconseiller à son entourage et de partager cela sur les réseaux sociaux.
Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce sujet vous a intéressé et vous a captivé. Restez avec nous sur Radio Campus. Nous allons basculer sur un autre sujet concernant l'environnement.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Merci Kirill. Nous allons passer à un tout autre sujet qui traite l'environnement avec Péta Lorraine.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'impact de la production d'une piscine sur l'écologie, plus principalement des piscines creusées. Tout d'abord, imaginez-vous en train de bronzer au bord d'une piscine ou de vous amuser dans la piscine. C'est génial, mais vous avez déjà pensé à l'écologie? Pour elle, c'est moins cool.
On va donc commencer par quoi?
Nous commencerons par sa construction et nous continuerons par sa consommation. Vous savez combien de temps prend le temps de la construction d'une seule piscine?
J'en ai aucune idée, je dirais un mois.
Il faut environ 6 à 8 semaines. La construction d'une piscine a donc besoin de matériaux, comme du ferraillage, des parpaings, des planches et du béton. Avec cela, on y ajoute des matériaux exprès pour la piscine, donc une pompe à eau, le skimmer, les bouches de refoulement, ainsi que les tuyaux.
Que consomme une piscine principalement?
Une piscine consomme principalement de l'eau et de l'électricité. Et sa consommation dépend de chaque piscine.
Sa consommation dépend de quoi?
Alors la consommation dépend de son système de filtration principalement. D'ailleurs, c'est ce qui consomme le plus. Mais il y a aussi la taille, la fréquence d'utilisation, le climat et les pratiques d'entretien. Tout d'abord, la consommation dépend donc de sa taille. Pour une piscine d'un volume de 50 mètres cubes qui a une pompe de 441 watts, sa consommation électrique par an est donc de 2414 kWh, ce qui est presque la consommation d'un foyer de 2 personnes.
L'électricité, mais l'eau, où en est-elle?
Pour une famille de 4 personnes, sa consommation d'eau est de 150 mètres cubes, sans piscine. À cela, on y ajoute le volume d'eau qu'il faut pour remplir la piscine. Donc, pour une piscine d'un volume d'eau de 50 mètres cubes, puis la consommation d'eau annuelle de 15 mètres cubes, cela revient à 215 mètres cubes d'eau par an. Si on remplit entièrement la piscine chaque année, puis à 165 mètres cubes, quand on ne remplit pas la piscine chaque année, ce qui revient presque à la consommation d'un foyer de 6 personnes.
Mais il n'y a pas que la consommation d'électricité et d'eau qui font un impact écologique.
Non, il n'y a pas que l'eau et l'électricité, mais à 50% si. Il y a aussi la consommation des produits chimiques pour l'entretien de la piscine, comme le chlore et le brome.
Mais tout cela, c'est les déchets que l'eau rejette?
Oui, totalement. Quand l'eau est trouble ouverte, que des algues apparaissent, le chlore fait effet, mais vaut mieux le remplacer par le peroxyde d'hydrogène, qui lui est dépourvu de chlore. Le peroxyde d'hydrogène est un puissant algicide. Il combat toutes les impuretés de votre bassin en les oxydant. Mais il ne faut pas en abuser car cela est dangereux pour l'environnement, mais aussi pour nous. Le pH doit se situer donc entre 7 et 7,4.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés, éclaircis sur ça, mais donc pour les piscines construites pour les JO 2024, qu'en pensez-vous?
Pour une piscine olympique, il faut compter que le volume d'eau doit être impérativement de 2500 m3 si la piscine fait 2 mètres de profondeur et 3750 m3 si la profondeur de bassin est de 3 mètres. Pour garder la température du bassin à 27 degrés, il faut donc 700 MWh, donc ce n'est pas un avis positif pour l'environnement.
Merci. Donc en résumé, la création d'une piscine et de son entretien a assez un gros impact écologique.
Totalement.
Merci de votre présence. Au revoir.
Merci à vous de m'avoir écouté, bonne journée.
Et on va souffler un peu avec une musique. Le chanteur malien Vieux Farka Touré s'associe avec le groupe texan Krangbin pour rendre hommage à son illustre père, Ali Farka Touré. On s'écoute le titre Savane tout de suite sur le 88.3 et on revient pour la suite de cette émission avec la première STMG1 du lycée Benjamin Franklin. C'est la radio des écoles.
Thank you.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Laurine et Mahadi. Je m'appelle Léana et aujourd'hui nous sommes accompagnés de trois camarades de la classe de STMG1 pour débattre sur le sujet de l'inégalité salariale dans le sport. Je vous laisse vous présenter.
Bonjour, je m'appelle Marine.
Bonjour, moi c'est Kenissa.
Bonjour, moi c'est Herman.
De nos jours, beaucoup d'inégalités salariales sont présentes dans le sport, que ce soit dans le football, le basketball ou d'autres sports. Cela est courant, la femme est moins rémunérée qu'un homme. Aujourd'hui, nous allons alors débattre sur ce sujet afin d'avoir le point de vue de chacun, étant donné que nous sommes en compagnie de deux hommes et deux femmes. Alors, qu'en pensez-vous du salaire des femmes qui est moins élevé que celui des hommes dans le sport ?
Je trouve ça injuste car les femmes pratiquent le même sport et font parfois des performances meilleures que les hommes. Le salaire devrait être égal.
Pour moi, cela est tout à fait normal que les femmes aient un salaire moins important que celui des hommes. Prenons l'exemple du foot, plus particulièrement de la Coupe du Monde. Tout le monde a suivi la Coupe du Monde masculine, 14,3 millions de téléspectateurs en 2022. Chaque chaîne de télévision se battait pour avoir les droits de retransmission, tandis que pour la Coupe du Monde féminine, il n'y avait pas autant de téléspectateurs, 3 millions en 2023. Il n'y avait que la chaîne France 2 qui diffusait l'intégralité des matchs.
Alors, à mon humble avis, je pense que le salaire des femmes... Je trouve ça normal que le salaire des femmes soit moins élevé que celle des hommes, car pour moi, tout se joue dans le niveau de jeu. Selon moi, le niveau de jeu est plus élevé chez les hommes en raison de la popularité et de l'attention médiatique qu'ils reçoivent et les ressources financières disponibles pour le développement des joueurs.
Pour moi, il est important que les femmes soient rémunérées de manière équitable par rapport aux hommes. L'égalité des salaires est un principe fondamental qui vise à garantir que chaque individu soit récompensé de manière juste, indépendamment de son genre. Les femmes méritent d'être traitées avec équité et d'avoir les mêmes opportunités de rémunération que les hommes. On va prendre l'exemple de Megan Rapinoe, qui est une joueuse de foot, ayant gagné des titres. Pourtant, elle est moins payée qu'un homme comme Kylian Mbappé, qui lui aussi a gagné plusieurs titres. Est-ce normal pour vous ou cela vous paraît absurde ?
Cela est absurde. Si une femme joue en Ligue 1, qui est le niveau le plus haut du football, et qu'un homme aussi, les niveaux sont les mêmes. Donc le salaire doit être le même, peu importe le sexe.
La différence entre Mbappé et Megan Rapinoe est flagrante. La joueuse de football est une star du football féminin, tandis que Kylian Mbappé est une icône internationale qui fait parler de lui sur et en dehors du football. Mbappé a sauvé la France en Coupe du Monde 2018. À seulement 19 ans, il a traversé le terrain à 39 km/h pour obtenir un penalty qui a avantagé les Bleus. À ce jeune âge, il a réussi à battre les Argentins de Lionel Messi. Megan Rapinoe n'a pas su afficher de telles performances à cet âge-là. Mbappé est aussi médiatisé grâce à ses actions caritatives. Il utilise son image, son influence et sa notoriété pour des causes à la fois humanitaires, solidaires et éducatives.
Alors, comme je l'ai dit précédemment, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Kylian Mbappé joue dans des championnats où la popularité et le niveau d'audience est plus élevé, donc il pourra générer plus de revenus, notamment grâce aux droits de diffusion, aux ventes de billets, aux produits dérivés, et plus de sponsors vont s'intéresser à lui, car ils sont attirés par les sportifs populaires, donc il pourra signer plus facilement avec des marques, etc. Par rapport à une Megan Rapinoe qui n'est pas vraiment célèbre et qui joue dans des championnats moins connus. Donc pour moi, je trouve cela pas absurde.
Moi, je trouve cela absurde. Pourquoi une femme serait moins rémunérée alors qu'elle a gagné des titres comme un homme ? Si la femme et l'homme font deux mêmes sports identiques et ont gagné des titres identiques, pourquoi ne sont-ils pas rémunérés pareillement ? Voilà encore une question qui montre profondément l'inégalité qu'il peut y avoir entre l'homme et la femme dans le sport. Pareil, le sport féminin est moins vu que le sport masculin, je m'explique. Le sport masculin, il est diffusé sur des chaînes principales de la télévision comme TF1 ou M6, alors que le sport féminin est diffusé sur des chaînes soit payantes, soit pas principales, comme l'équipe 21 ou France 2. On constate alors qu'il y a plus de public qui regarde le sport masculin que le sport féminin. Si on regarde le salaire d'une sportive et d'un sportif, on a Megan Rapinoe qui est à 5,6 millions d'euros par an et on a Kylian Mbappé, meilleur joueur de l'équipe de France, qui lui est à 18 millions d'euros par an, soit 12,4 millions d'euros par an d'écart. Comment pouvez-vous justifier cette différence ?
Cette différence pour moi n'est pas correcte. Chacun a son niveau, homme ou femme, mais les deux personnages sont en Ligue 1. Donc il ou elle devrait gagner pareil, peu importe les avantages ou inconvénients. L'inégalité homme-femme a toujours été parmi nous et cela continue à s'introduire dans différentes activités.
La différence entre ces deux personnes, c'est que Megan Rapinoe ne fait rien en dehors des terrains. Elle n'a pas du tout le même palmarès que Kylian. Elle n'a pas non plus les mêmes sponsors. En équipe de France et en club, le jeu est construit sur Mbappé, alors que Megan Rapinoe n'a pas un jeu qui est construit autour d'elle. Kylian marque plus de buts qu'elle, donc la différence se fait aussi sur ce critère-là.
C'est vrai qu'il y a une grande différence entre les salaires de Megan Rapinoe et de Kylian Mbappé. Ceci s'explique par une popularité massive du football masculin par rapport au football féminin. Les revenus générés par les compétitions masculines et les contrats publicitaires. Cependant, il est important de continuer à soutenir et à promouvoir le football féminin pour réduire ces écarts.
La femme a toujours été inférieure à l'homme. Rien qu'à l'époque où l'homme avait des droits que la femme n'avait pas, on peut alors comprendre que la femme n'était pas prise en compte dans la société. Peu à peu, il y a eu le changement qui a permis à la femme d'être présente et d'être au même niveau que l'homme. Ici, on retrouve des inégalités salariales, mais cela a toujours été présent. Mais personne ne prend en compte que cela devient très important et que la femme est devenue inférieure à l'homme dans le sport. Je ne comprends pas pourquoi le salaire serait moins important pour les femmes que pour les hommes. Est-ce une question de niveau ? Est-ce une question de sexe ? Personne ne sait. Elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur et doivent sans cesse combattre ces inégalités. D'où l'importance de ce choix de sujet qui va permettre de faire écho aux personnes écoutant la radio. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons une agréable fin de journée.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Merci à Léana, Marine, Herman et Kenissa. Nous restons dans le domaine du sport avec cette fois-ci les potentielles violences subies par les judokas au haut niveau. Je suis Hugo, bienvenue sur cette chaîne à Orléans. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des potentielles violences subies par les judokas de haut niveau. Pour cela, nous avons invité Tom.
Bonjour, je suis Tom, élève en première STMG à Benjamin Franklin. Et effectivement, c'est un sujet dont je parle souvent, car je suis moi-même du milieu judoka.
Alors, il est vrai que par rapport à ce sujet, j'ai quelques questions à poser. Déjà, depuis combien de temps vous faites du judo et combien par semaine ? Et pouvez-vous me dire quelques exemples des violences que peuvent subir les judokas ?
Oui, bien sûr, je m'entraîne à peu près 13 heures par semaine et ça fait maintenant 14 ans que je pratique cette discipline. Et pour ce qui en est des potentielles violences, il y a la discrimination, les moqueries ou bien le harcèlement.
Avez-vous des exemples concrets ?
Eh bien oui, Mélanie, qui faisait partie du Pôle France de Marseille entre 2003 et 2006, a révélé que leur entraîneur les écrasait, leur enfonçait ses doigts dans les côtes, les insultait, ou bien qu'elles tombaient dans les pommes dues à des étranglements répétés. Mais il y a aussi Patrick Roux qui vient de publier un livre intitulé « Le revers de nos médailles ». Et dans ce livre, il dénonce les violences physiques, insultes que subissent les jeunes judokas au sein de certains pôles d'entraînement et clubs destinés à les mener vers la réussite.
Ah oui, d'accord, je ne pensais pas que cela pouvait prendre une telle ampleur.
Oui, c'est effectivement très commun dans tous les sports à haut niveau. Ces violences sont passibles d'une amende de 30 000 euros et d'emprisonnement si cette personne qui a subi trouve cela trop régulier et qu'elle porte plainte au commissariat. Bien évidemment, ça ne va pas jusqu'à là la plupart du temps, car les personnes concernées vont en parler à la personne qui est violente en lui disant qu'elle arrête ou sinon elle risque de recourir à une grosse amende et de l'emprisonnement. Et leur harcèlement s'arrête généralement à ce stade-là. Donc je vous remercie de m'avoir invité ainsi que de m'avoir accordé tout ce temps, car c'est un sujet qui me tenait à cœur de défendre.
Merci à toi pour ce témoignage, tu as permis de répondre aux questions que l'on se posait par rapport à ce sujet. Au revoir, bonne journée.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Bonjour, nous nous appelons Emmanuel, Victoria, Fatoumata et Iser et nous sommes des élèves du lycée Benjamin Franklin à Orléans en première STMG. Aujourd'hui, nous allons vous parler des médias, plus précisément TikTok. Aujourd'hui, nous allons parler de l'apparition de TikTok dans le monde et faire un débat par la suite. En quoi consiste l'application ? TikTok est un réseau social qui permet de partager des vidéos de courte durée. Pourquoi TikTok est devenu connu ?
Grâce à son renouvellement en proposant à ses utilisateurs un large choix de filtres et d'effets pour la création de contenu.
Savez-vous comment elle est devenue connue ?
Elle est devenue connue en étant une application réputée pour sa simplicité et sa capacité à permettre aux utilisateurs de partager des vidéos courtes et amusantes.
Et comment a-t-elle fait pour gagner une popularité ?
Cette application a gagné en popularité pendant la période du Covid avec une hausse de 27% d'utilisation en 2020. À ce moment, tous les jeunes étaient chez eux et il fallait se divertir, donc cette application était parfaite.
Nous allons débuter un débat sur TikTok en donnant les avantages et les inconvénients d'utilisation. Premièrement, nous pensons que cette application est un tremplin pour les jeunes entrepreneurs qui sont nouveaux dans le métier et une source de revenus pour les créateurs de contenu.
C'est vrai qu'elle est peut-être un tremplin, mais toutes les vidéos ne sont pas mises en avant à cause de l'algorithme et cette source de revenus contient des conditions. Elle n'est pas disponible pour tout le monde.
Deuxièmement, elle est facile à utiliser, elle contient une diversification de contenu.
Elle permet une diversification de contenu, mais la plateforme peut contenir du contenu inapproprié, par exemple de la violence, de la vulgarité et d'autres formes. De plus, ce genre de contenu peut créer des traumatismes et des complexes.
C'est pour cela que TikTok met en place une limite d'âge.
Peut-être. Néanmoins, cette limite d'âge n'est pas vérifiée par la suite. Donc, l'utilisateur peut très bien mentir.
En outre, l'utilisation de cette application sur de longues périodes de temps à défiler sans fin à travers le contenu contient un impact négatif sur le bien-être mental et la productivité.
Cependant, une forte utilisation de la plateforme peut stimuler la créativité et permettre aux utilisateurs d'interagir avec une communauté mondiale avec les mêmes intérêts.
Malgré tout, TikTok est connu pour la diffusion de fake news, en particulier sur des sujets sensibles comme la santé ou la politique.
Ce genre d'information est généralement créé pour avoir de la visibilité. Cela fonctionne, mais à court terme.
Cette application est souvent critiquée pour ses collectes de données, ce qui interroge la confidentialité et la sécurité des données des utilisateurs.
Et pourtant, la critique n'a pas lieu d'être. Une forte protection de la confidentialité et de la sécurité des données permet aux utilisateurs de contrôler les informations personnelles et réduise les risques de divulgation non autorisée.
Cette application n'est pas immunisée contre le cyberharcèlement, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale des utilisateurs.
Néanmoins, il est possible d'éviter le cyberharcèlement en mettant son compte en privé, en utilisant des filtres de commentaires, en gérant ses abonnés et en évitant de partager des informations personnelles et plein d'autres.
En passant du temps sur cette plateforme, une compétition sur l'attention et la popularité de TikTok peut entraîner une pression sociale, surtout pour les jeunes utilisateurs.
Généralement, la pression sociale est vue comme négative, pourtant elle provoque une motivation à l'amélioration personnelle.
Merci pour ce débat riche en arguments et merci à nos auditeurs.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Nous sommes actuellement en direct à la radio et un élève va nous parler d'un sujet.
Bonjour, je suis un élève de première à Benjamin Franklin. On passe à un sujet assez différent puisque je vais vous parler de la ségrégation scolaire et des politiques adoptées pour favoriser la mixité sociale. Je vais évoquer plusieurs politiques que je vais développer.
Merci beaucoup, on vous laisse la parole.
Alors, je vais commencer par définir la mixité sociale. Alors, qu'est-ce que c'est que la mixité sociale ? C'est le fait de mélanger des personnes ayant des caractéristiques différentes telles que l'âge, le salaire, l'origine, le métier. Donc maintenant, je vais passer aux politiques adoptées pour favoriser la mixité sociale. Donc par exemple, pour encourager la mixité sociale, le gouvernement a demandé au préfet de ne plus attribuer de logement à un ménage en fonction de leur aisance financière. À l'école, la favorisation de la mixité entre les élèves est très importante, car il a été montré que cette mixité a un impact sur la réussite scolaire des élèves. La France est marquée par un phénomène de ségrégation, c'est la séparation forcée des individus en fonction d'éléments comme la couleur de peau, l'origine. Ainsi, les écoles ont un indice de position sociale, aussi appelé IPS, qui est différent selon les établissements. Les valeurs de l'IPS représentent les conditions socio-économiques et culturelles moyennes des professions. L'IPS a été mis en place par l'Éducation nationale en 2016 afin d'appréhender le statut social des élèves à partir des professions et catégories sociales ou PCS de leurs parents.
Alors, comment régler ces problèmes ?
Des politiques mises en place ont pour but de régler ces problèmes et de favoriser la mixité sociale. En mai 2023, Pape Ndiaye, ancien ministre de l'Éducation nationale, a eu pour objectif de réduire la ségrégation sociale des écoles de 20% d'ici à 2027. Donc voici le planning prévu pour mettre en œuvre ces solutions. En mai 2023, dans chaque académie, concertation avec les collectivités et les partenaires dans le cadre d'une instance de dialogue pour fixer une feuille de route telles que l'identification de territoires cibles, de leviers, de partenaires et d'objectifs locaux. En décembre 2023, une réunion de l'ensemble des académies pour partager l'état des lieux des actions mises en œuvre par territoire et engager le suivi national a eu lieu. De 2024 à 2027, chaque académie doit mettre en œuvre sa feuille de route. Entre 2025 et 2026, il a été prévu d'organiser des points d'étape annuels pour mesurer les résultats atteints.
Merci, c'est la fin de l'émission de la STMG, de la
STMG1, à bientôt.
Mais moi, il n'y a pas...
La radio des écoles. Atelier d'initiation d'expression radiophonique dans les établissements scolaires d'Orléans. Sur Radio Campus 88.3, la radio des écoles.
Yeah.
kafalei. Leva vira leka kwe shamei. Ramagita kata bifavei. Sinarena shula kafalei. Leva vira leka kwe shamei. Tumba chala sanya sonya te. Bifavei, sinarena sulla gaffalei, leva vira leka kwe shamei.
Bye. qui viendront après t'avoir battu. Tu regarderas en arrière en disant qu'au final on aura bien vécu. On a toujours le droit à l'erreur, l'erreur jusqu'à destinée. C'est à toi de voir si tu es heureux, heureux encore dans tes pensées. Crois en l'amour, en tes peines, aux beaux jours qui viendront après t'avoir battu. Tu regarderas en arrière en disant qu'au final on aura bien vécu.
Oh, Avec un gros salaire, bientôt à table avec le chétan pour faire les affaires. T'apprends tous les rouages de ce qu'on appelle le système. Les types sont cadres sup et veulent se faire passer pour des bohèmes. Les rappeurs écrivent bof et j'entends parler de poètes. Les puissants sont friands de jeunes filles avec des couettes. Emploi précaire maintenant, c'est comme ça qu'on fouette. Taf de merde en CDI, faudrait qu'on trouve ça chouette. La vie c'est brutal comme une salve de canon scié. Un homme qui tombe et meurt, c'est mieux quand c'est filmé. Je comprends pas pourquoi tu fais des projets à ma place. À trop vénérer l'argent, vous avez des cœurs de glace. Il paraît que les rêves se réalisent.